Merci. Il y a un rashi qui est célèbre qui dit que quand Rivka porte deux enfants, Shnei Goyim et Vitner, Rashi dit Shnei Geim. Et il insiste sur qui est-ce, c'est Rabbi et Antoninus. Ce que j'ai du mal à entendre par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'il semble, je n'ai pas non plus fait le tour, mais disons, la relation entre Rabbi et Antoninus d'Avka, qui paraissent être les symboles même de la confrontation des deux nations, n'ont pas l'air de se conformer au schéma du rapport entre Yaakov et Esav. Ils ont l'air plutôt de dialoguer et de s'apporter quelque chose. Et comment comprendre ça?
Je vous ai dit que simplement, nos problèmes avec eux, c'est qu'eux ne sont pas d'accord. Alors, il y a eu des exceptions. Il y a Antonin et Rebbi, effectivement. Mais ça veut dire qu'à titre individuel, on a pu s'arranger avec certains. À titre collectif, que ce soit l'Église catholique, que ce soit d'autres organisations, que ce soit musulmans, fanatiques, etc., en tant que tel, on n'a pas pu s'arranger avec eux, même s'ils sont proches. Donc, en tant que tel, en tant que peuple, on n'a pas pu s'arranger. Avec certains individus, c'est l'exemple qui est donné aussi, qu'effectivement, de façon idéale, Yitzhak, quand il voulait donner sa bénédiction à Esav, Yitzhak pensait que le but de l'exercice, c'était que Yaakov et Esav travaillent ensemble. C'est-à-dire que Esav soit sur le terrain et que Yaakov soit le théoricien de... Vous avez la même chose. Rabbi Akiva, il a voulu faire la même chose avec Bar Kokhba. A priori, Rabbi Akiva, il pensait qu'il allait guider spirituellement Bar Kokhba et que Bar Kokhba était un bon chef de guerre. Il allait faire les choses ensemble. Et ça n'a pas marché parce que Bar Kokhba, il a attrapé la grosse tête. Il s'est dit qu'il pouvait faire ça tout seul. On sait ce que ça a donné. Donc, chaque fois que... Il y a probablement, c'est peut-être ça que ça nous enseigne, ce sont des jumeaux, même si c'est des faux jumeaux, qu'en fait, on peut travailler ensemble, mais justement, il faut que, comme le dit Yitzhak dans sa bénédiction, il dit il faut que l'aîné se soumette au plus jeune. C'est-à-dire, il faut que Esav accepte de travailler sous la direction de Yaakov. Et ça lui est très difficile parce que Esav, c'est une super grosse tête. La tête d'Esav, elle est dans Maarat HaMarpella. La tête d'Esav est parfaite. C'est que sa tête ne gouverne pas le corps, c'est le corps qui gouverne sa tête. Mais la tête, en théorie, il a une super grosse tête. Il aurait très bien pu, il a probablement une tête aussi bonne que celle de Yaakov. Seulement, c'est ailleurs que ça pêche.
Je vais vous remercier David Sedbon pour sa question qui sera un de nos prochains intervenants. Tout prochain intervenant.
Merci beaucoup de votre exposé. Je voudrais vous poser deux très rapides questions. La première, vous avez dit à un moment donné, et c'était à propos de Réhouven, donc il aurait dû avoir, selon vous, les prérogatives de l'aîné, à savoir la royauté et la prêtrise en particulier.
Et la double part.
Et la double part. Et donc, je me suis demandé, dans votre expression, un prérogatif de l'aîné, alors pourquoi, malgré tout, jusque-là, dans la Torah, dans Bereshit, les aînés sont toujours écartés, et ça commence même bien avant la famille de Jacob. Et la deuxième question, à propos justement de la bénédiction que Jacob donne à ses fils, donc avant de mourir, vous avez dit, en citant le fait qu'ils récitent tous Shema Israël devant leur père, vous avez parlé de « nous sommes 12 peuples, mais nous avons en commun cette émouna ». Et c'est votre expression « nous sommes 12 peuples » qui me pose question. Je voudrais savoir quelle différence vous faites entre peuple et tribu.
Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas encore la notion de tribu, mais ça revient au même. En fait, de facto, ces peuples, ces tribus, c'est des peuples différents, ça veut dire des tribus, ont des caractéristiques de peuples différents, ces différentes tribus. Et elles ont... C'est-à-dire, ils ne disent pas du tout on est tous tes enfants, donc on pourrait dire on provient tous de la même source. Donc c'est ça qui nous attache. Ils disent non, pas du tout, on converge vers quelque chose, vers ce Hachem Echad. Effectivement, ils sont des peuples avec des mentalités complètement différentes. De toute façon, on voit ça par la suite de l'histoire. Et j'ai pas fait de différence ici entre tribus, parce que par la suite on les appelle les tribus. Mais après, a priori, faut que je vérifie le texte, mais il me semble qu'ils ont dit qu'ils étaient 12 peuples. Je crois que si j'ai utilisé ça, ça doit être une réminiscence du texte, mais c'est possible. Je crois pas qu'ils aient pu dire à ce moment-là qu'ils étaient, parce que comme lui disait, je devais faire un peuple, alors ils ont répondu 12 peuples, je pense, mais il n'y a pas de différence. Maintenant, quant à la question de ça, vous avez parfaitement raison, et par la suite aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire que la Torah, elle fait tout un plat de l'importance de l'aîné, etc. Jamais un aîné n'est un leader. Ni Moshe Rabbeinu, ni Joshua, personne. Ça ne marche jamais. Ni David, personne. Shlomo, ça ne marche jamais. La théorie, c'est extraordinaire, combiné, mais ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche jamais. Mais de facto, vous avez raison, ce n'est pas seulement avant, c'est après aussi, c'est tout le temps. Il y a toujours cette situation étrange où on parle d'aînés, mais en fait, ils sont jamais à la hauteur, comme si c'est trop ce qu'on leur demande, comme si... Bon, je ne sais pas faire la psychologie des aînés, je ne sais pas.
Et même quand Jacob bénit ses petits-fils, Ménassé et Ephraïm, ouais. Bon, il les bénit ensemble, c'est déjà
quelque chose. Oui, non, mais ils croisent les mains. Oui, c'est ça. Il est aussi... Très bien, oui, d'accord, c'est lui le premier-né, c'est lui, par exemple. Enfin, l'autre est mieux.
Caïn et Evel, déjà.
Caïn et Evel, oui, enfin, Caïn est l'aîné. Bon, mais là... Bon, ça dépend. C'est un peu compliqué parce que il y a des midrashim qui disent que en fait, quand ils se sont battus, Evel était plus fort. Et Caïn a supplié Evel de l'épargner. Alors Evel l'a laissé se retrancher et puis il est tombé dessus et il l'a tué. Donc il a pu le tuer parce que Evel lui a laissé la vie, alors il a profité.
Dieu avait auparavant choisi Evel.
Oui, enfin, il a choisi son corban, parce que le corban était... Bon, ça, c'est la théorie. Hachem a... Si vous voulez, il y a toujours cette idée qu'on retrouve dans toutes sortes de circonstances. Disons, personnellement, j'ai plutôt l'impression que si Hachem a choisi Evel, c'est parce que c'est déjà énorme ce que Caïn a fait. C'est lui qui a inventé le corban. Alors qu'on le choisisse en plus, faut, de la même manière, David Ameller, c'est lui qui a l'idée de construire le Beth Amikdash. Mais bon, c'est pas toi qui vas le construire, c'est ton frère. C'est trop, on peut pas laisser à quelqu'un à la fois l'idée et la réalisation, c'est un peu trop. C'est comme s'il allait attraper obligatoirement la grosse tête et que ça va pas marcher. Mais bon, ça c'est ma lecture de Caïn et Abel.
Oui, donc merci beaucoup. Ce que vous définissez comme lien principal du peuple juif aux autres nations serait en fait dans la négociation d'une protection ou la négociation d'un espace. Mais on peut aussi considérer que, ou il est dit que le peuple juif est une lumière parmi les nations. Et donc, dans ce cas-là, sa relation aux autres serait une relation non pas simplement de négociation d'un espace, mais d'exemplarité ou de diffusion d'un message. Et donc, du coup, ça pose la question de quelle est la place des autres dans cette perspective-là.
Yeah. que l'Israël devrait être une lumière parmi les nations. Mais si vous voulez, ça veut dire que nous, on doit être, on doit faire ce qu'il faut. Ce n'est pas une relation. Si vous voulez, être lumière pour les nations, c'est qu'on aurait une façon de nous conduire, etc., qui apparaît comme une lumière pour les nations. Mais ce n'est pas qu'on va aller... Venez, on va vous enseigner, on aime mieux que vous, etc. Ça ne va pas marcher. Donc, et de facto, on parle surtout... on parle de l'exil. Ça veut dire qu'on parle d'une situation où les Bnei Israël ne sont pas chez eux. Ou donc, c'est vrai, il faut comprendre que le peuple juif, finalement, il n'a pas de place dans le monde. C'est un peu compliqué, mais le peuple juif, quand il arrive, toutes les places sont déjà occupées. Il ne peut s'installer quelque part qu'en chassant ceux qui sont déjà installés là-bas. Il n'y a pas de place, naturellement. Il n'y a pas. C'est pas qu'on a laissé un espace et qu'ils vont occuper un espace vide. Même si on explique que ça leur appartient théoriquement, tout ce que vous voulez, mais de facto, il faut qu'ils chassent un peuple qui est déjà installé là-bas pour prendre la place. Et donc, et c'est ça que disent même les historiens, Toynbee et les autres. Je vais classer les peuples. Il n'y a pas de place, je n'ai pas trouvé de place pour le peuple juif. On est un peuple qui, par définition, n'a pas vraiment la place. Alors, c'est pour ça peut-être qu'une grande partie de notre histoire, ou la quasi-totalité de notre histoire, c'est notre histoire quand on n'est pas à sa place. En théorie, on a une place qu'on ne nous donne pas, ou qu'on n'a pas reçue complètement. Et puis on est ailleurs où on doit justifier et on est à la merci, effectivement. Et donc, parce qu'on est à leur merci, on est obligé de discuter avec eux pour qu'ils nous laissent. Alors c'est vrai que c'est arrivé fréquemment qu'on nous accepte parce qu'on comptait sur nous pour arranger les choses. Le fameux Casimir en Pologne, etc. Et ils ont accepté les Juifs, parce qu'ils espéraient que les Juifs allaient apporter une prospérité, etc. Après, bon, l'Église a fait le sien, donc c'est autre chose. Mais en général, c'est parce que c'est leur intérêt. Ils nous perçoivent un peu comme une lumière, je ne sais pas, mais en tout cas, ils voient que ça pourrait être intéressant d'avoir des Juifs. Et donc, on va les accepter. Et puis après... C'est pour ça qu'il faut négocier avec eux, parce qu'on n'est pas chez nous. C'est le propre de l'exil, quoi.
Merci. Merci beaucoup, Rav. J'avais une question qui se rapproche un peu, en fait, justement, de ce point. Vous avez parlé de Yaakov et Esav, et on peut aussi penser à Yosef comme figure de modalité, on va dire, de l'être juif en exil et du rapport au pouvoir. Et je me disais justement, suite à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut considérer que cette position du conseiller juif du roi, qu'ensuite on retrouve à travers l'histoire juive en exil, ça se rapproche en fait de la négociation avec les autorités, parce que le juif en tant que conseiller va apporter sa clairvoyance, son expertise, parfois ça va être des médecins, voilà, et dans quelque sorte il y a un intérêt derrière, ou est-ce que c'est deux choses que vous sépareriez?
Et oui, absolument ça, mais Yosef, c'est pas encore un moment d'exil,
pas
c'est
à proprement
lui qui a dit personnel pour là-bas. Mais effectivement, pourquoi est-ce qu'on va accepter les juifs? Ils ne peuvent pas ne pas accepter la famille de celui qui a sauvé l'Égypte. Et après, effectivement, vous avez Ababanel ou ces gens-là qui jouent un rôle fondamental en Espagne, et on voit très bien que l'Espagne, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'Espagne, elle coule.
J'avais une autre question qui a sur un autre point, sur Amalek. J'ai trouvé très intéressant que de dire que Amalek, c'est aussi un ennemi intérieur, et avec l'aspect Marloket et la Shonara. Et en fait, j'avais entendu, et j'en ai oublié la source, mais un commentaire qui faisait un rapprochement entre Amalek et la notion de doute, de Safek, sans le rapprochement de la Gematria. Mm-hmm. Donc déjà, je ne sais plus tout ça, donc si vous avez la référence. Et je trouvais ça intéressant. Est-ce que, je ne sais pas, comment on fait le lien avec le Lachonara? Est-ce que vous voyez un lien?
Oui, c'est peut-être un autre sujet.
Oui, c'est peut-être un autre sujet. Mais comme vous abordiez la question, ça m'intéressait.
Vous avez une réponse?
J'ai répondu.
Il y a une tribu qui n'en est pas une, qui est comptée toujours à part, qui a un rôle particulier, et qui, c'est les Lévi'im. Alors c'est d'autant plus frappant qu'au moment de la conquête, tout ça, donc il y a le plan d'organisation du territoire, de partage entre les tribus, et en même temps, tout de suite, on va désigner les villes qui vont aller aux Lévi'im, et puis toute la procédure des 2x3 villes refuges, et puis enfin de part et d'autre du Jourdain, et puis les 42 autres villes, on va désigner dans le livre de Josué quelles sont les villes qui vont être données tribu par tribu. Donc tout de suite, l'entrée dans le territoire, l'organisation, on pourrait dire, du peuple juif, se passe avec, il y a à la fois le partage des tribus et ce dispositif autour des villes. Alors, c'est d'autant plus curieux que le partage entre les tribus, c'est un rapport au territoire. Ça va être toutes les lois sur la terre, tout un certain nombre de choses qui vont structurer toute une société, toutes les histoires de l'agriculture, tout plein de choses autour de la terre. Or, les villes, elles sont extraterritoriales. Elles n'appartiennent pas à un territoire. Elles ont une autre fonction. Donc on a une espèce de... Sur le partage du territoire, avec un certain nombre de lois, de règles qui sont prises, on a vient dessus une espèce de maillage autour des villes qui est alors là, donc c'est le confié aux Lévi'im, et va nous développer toutes les relations de fraternité, de solidarité, d'éducation, plein de choses qui vont se développer. Ah bon, on part de l'exemple évidemment du réfugié dans les villes de refuge, là le meurtrier involontaire, mais au-delà de simplement le refuge qu'on donne aux meurtriers involontaires, on voit bien que c'est toute une vision des rapports de société, de l'éducation, etc., et le fameux rôle des Lévi'im. Alors donc, il y a un peu un paradoxe qui est que dans les tribus, ils ne sont pas comptés et en même temps, ils jouent un rôle comme complètement essentiel dans la structuration de la société juive, si on peut dire comme ça, quoi. Voilà, je voulais votre avis là-dessus, quoi.
Bon, ça, c'est clairement uniquement en Israël, en terre d'Israël. Ça, c'est pas en dehors de la terre d'Israël que ces histoires de villes spéciales. L'idée, c'est que les Lévi'im, on ne leur a pas donné de territoire. Parce que quand on a un territoire, on doit le cultiver. Et donc, ça les mobiliserait pour travailler la terre, etc. Or, eux, ils sont requis de ne se consacrer que au service d'Hachem, c'est-à-dire que à l'enseignement et au fonctionnement du Beit HaMikdash. Essentiellement l'enseignement. Pourquoi ? Parce que les Lévi'im, comme les Kohanim, par exemple, les Kohanim, ils travaillent 15 jours par an. Parce qu'il y a 24 groupes de Kohanim. Donc, ils travaillent 15 jours par an, sauf les jours où tout le monde est sur le pont. Mais autrement, le reste du temps, ils doivent étudier et enseigner la Torah. C'est-à-dire, on parle toujours des prêtres, mais je pense que c'est un abus de langage. Parce qu'ils sont essentiellement des enseignants. Ils sont en charge d'enseigner la Torah au peuple. Et donc, ils sont requis de faire que ça. Et donc, on ne peut pas leur donner de territoire. Il faut bien qu'ils habitent quelque part. Alors, on leur a donné des villes, pour y habiter. Et puis du coup, ces villes étant un peu spéciales, ce n'est pas des gens qui habitent là, n'ont pas de territoire, et donc ils sont occupés à autre chose. Et ça va servir de, comme vous avez dit, même les 42 villes des Lvivs vont servir de villes-refuges. D'accord ? C'est-à-dire, quand quelqu'un est tué par inadvertance, il était exilé dans les villes-refuges. Exilé, ça voulait dire qu'on lui créait tout ce qu'il avait normalement, sauf qu'il n'était pas chez lui, c'est tout. Et il devait y rester jusqu'à la mort du Cohen Gadol qui était en service quand il l'a tué par inadvertance. Et les Lvivim, effectivement, ils sont, vous avez des extras, c'est les extraterrestres, ils peuvent pas vivre comme tout le monde, quoi. Parce qu'ils sont requis, ils ont des conditions, les Lvivim, Kohanim, ils ont des conditions de pureté, etc., pour être disponibles, que les autres n'ont pas obligatoirement. Alors, c'est toujours cette idée que dans le peuple juif est, a priori, un peuple qui doit se consacrer essentiellement à l'étude. Et donc, on a restreint, il y a un petit groupe de gens, une partie de ce peuple, qui ne fait effectivement que ça, et qui est en charge de veiller à ce que tout le monde apprenne la Torah.
Elles ne sont pas liées au territoire, un certain nombre de contingences géographiques, politiques, historiques et tout. Et donc, on a une sorte de modèle que nous donne la ville et le rôle des Lévi'im, qui est un modèle parce qu'il n'est pas lié à une période particulière, un pays particulier.
C'est un modèle, comme voilà. Rambam dit à la fin de l'Épochpita Yovel, il dit que si, lui, Rambam, personne, je garantis que si quelqu'un se consacre entièrement à l'étude de la Torah, il manquera de rien. Bon, il n'a pas dit qu'on aurait une BM ou autre chose, il a dit qu'il manquera de rien. Il faut voir où est-ce qu'il place cela. Mais bon, c'est Rambam qui dit, à titre personnel, lui, il garantit les choses. Donc, c'est ça le modèle, si vous voulez, consacré entièrement.
Je suis désolée, je n'ai pas suivi l'introduction du Rav. Mais j'avais cette question déjà quand j'ai reçu le compte-rendu. Donc, et je vois que le sens de votre intervention confirme ce compte-rendu. Le compte-rendu que nous avons reçu, qu'on reflète exactement ce que nous avons fait dans le précédent séminaire. Et je me posais une question par rapport au fait que Israël existe, que c'est un corps constitué, que c'est un territoire, qu'il y a des mitzvot qui sont appliquées en Israël, qui ne peuvent pas être appliquées en dehors d'Israël. Or, j'ai l'impression que notre séminaire s'enracine dans l'exil. Donc, je voudrais comprendre.
La politique juive en exil.
Oui, mais justement, est-ce que la politique juive en exil est la même à partir du moment où Israël existe et comment ça joue ?
Est-ce que le fait qu'Israël existe, est-ce que ça supprime l'exil ? Certainement, on est toujours en exil, comme je vous ai dit. C'est pas parce qu'on a un territoire. C'est à toi. C'est pas parce qu'on a un territoire qu'on n'est pas en exil. J'ai dit, on était en exil, le fameux exil grec, celui qui a pris fin à Hanouka. C'était les Juifs sur leur terre, avec le temps, avec le Beth Amikdash. Ça s'appelle l'exil grec. Donc, ça dépend comment on organise.
Je m'interroge sur la phrase bienvenue
qui consiste à dire vous êtes des étrangers domiciliés chez moi. C'est dans la Torah.
On parle ici de ce que Abraham a dit lui-même.
Non, c'est Dieu qui dit à son peuple, vous êtes des étrangers domiciliés chez moi.
Bon, mais ça veut dire que, en fait, on voit bien que le peuple juif n'a pas le statut d'un propriétaire terrien. D'accord ? On a toutes les lois qui sont liées à la terre, qui sont la Shemitah, l'année sabbatique, le Trumot et Maasrot, etc., qui montrent bien qu'on n'est pas maître. On n'a pas les... On n'a pas la relation avec la terre qu'ont les propriétaires normalement, enfin chez les goïms, quoi. On n'a pas ça. Et donc, à qui ça appartient? Ça appartient à Hachem. Hachem Haaretz Umloa, ça veut dire, bon, la terre appartient à Hachem. Il nous la met à disposition si on respecte certaines règles. Et la Torah dit, maintenant, si vous ne respectez pas les règles, la terre va vous vomir, parce qu'elle n'a pas manqué de faire, etc. Donc c'est vrai, c'est malheureusement vrai, enfin, ou malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, mais enfin, effectivement, il y a tout un apprentissage de s'occuper d'une terre sans développer le sentiment de propriété de cette terre, des droits, etc. Pas du tout. Tu n'as pas de droits, que des obligations quasiment. D'accord ? Mais tu peux en profiter si tu satisfais les obligations, c'est bon.
Je rebondis juste sur la question de madame par rapport à l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que ça change ou pas? Vous avez dit qu'on est toujours en exil, même en ayant la terre d'Israël, l'État d'Israël. Et du coup, je me demandais quelles sont les conditions, en fait, dans lesquelles on ne serait plus en exil.
A priori, les conditions qui ont motivé notre exil, c'est qu'on n'a pas respecté la Torah, en particulier pas respecté la Shemitah. D'accord ? C'est marqué dans le texte, effectivement, que durant l'exil, la terre, elle se repose des Juifs, quoi, en quelque sorte, et donc ça compense les Shemitot qui n'ont pas été respectées. Et donc c'est sûr que dans la mesure où aujourd'hui on respecte de mieux en mieux la Shemitah, on va peut-être dans le bon sens. Maintenant, il n'y a pas que la mitzvah de Shemitah, il y a pas mal d'autres choses. Alors, c'est remarquable de voir que les Juifs s'installent sur un territoire et qu'il n'y a pas de véritable recherche de développer un droit, si vous voulez, qui soit directement inspiré par la Torah. Le droit en Israël, il est... turco, anglo, franco, je ne sais pas encore. D'autres. Il y a aussi un petit peu de droit de la Torah. Ouais.
Merci beaucoup, Raph, pour... cette leçon inaugurale, j'attendais avec impatience de réfléchir à ce passage de l'organisation tribale, à la disparition de l'organisation tribale et au sens que ça pouvait avoir sur ce qu'était la politique juive et quelles étaient les conditions pour être un peuple. Et... juste avant de revenir là-dessus, sur les conditions pour être un peuple, ce qui fait qu'on n'est plus une tribu, plusieurs tribus, mais qu'on devient un peuple, je trouve ça vraiment intéressant, ce passage-là. Comme le but du séminaire, c'est aussi de redéfinir tous les termes en fonction de la perspective juive, notamment qu'est-ce qu'un peuple, mais qu'est-ce que la politique, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire que vivre de manière politique? Donc on a des éléments là pour la politique intérieure, d'une certaine manière, la politique extérieure qui prend plutôt le cheminement de la négociation, si je comprends bien. Et puis, je trouvais ça très intéressant, cette remarque sur les aînés, finalement, à qui était refusé le propre de l'aîné. Et en fait, je me disais qu'il y avait quelque chose là qui était vraiment un élément fondamental du politique, parce que, traditionnellement, en tout cas en philosophie, on dit que le politique, c'est quelque chose qui n'est qui n'appartient pas à la nature. Il n'y a pas de politique dans la nature. Et là, le premier-né, c'est celui qui arrive par voie basse. Il y a un déterminisme naturel. Et la politique est contre le déterminisme naturel. Elle procède d'une volonté ou d'un choix. Et il y a très certainement toujours une volonté ou un choix qui va dire c'est plutôt celui-là à qui on va attribuer un pouvoir plutôt que à celui qui est déterminé naturellement. Déjà là, il y a un acte politique et je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a de la politique même dans la structure de la parenté, pour reprendre une expression anthropologique. Donc déjà, dans ce détail-là, il y a une construction politique de la société juive. Hein, on pourrait dire ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est juste une remarque. Là, il me semble qu'il y a beaucoup d'inconnus sur ce que c'est qu'un peuple. J'essaye de comprendre comment on définit le peuple. Et alors, je vois bien, normalement, il y a une différence entre une organisation tribale et ce que ça veut dire qu'appartenir à un peuple. J'avais un prof de philosophie politique qui disait « Être un peuple, c'est avoir la conscience d'appartenir à un peuple. » Et c'est très abstrait. Ça veut dire qu'il n'est pas question de terre, là. Et peut-être que le fait d'être sur une terre, ça procède de cette même disposition naturelle. Bon, on est tous sur une même terre, alors on serait naturellement un peuple. Mais la conscience d'être un peuple, c'est un lien qui est plus abstrait, peut-être plus fort que le lien à la terre. Enfin, c'est-à-dire qu'il perdure au-delà de la terre. Il y a quelque chose plutôt de transcendant là. Et est-ce que cet exil-là, c'est une fonction négative, mais le dernier exil qui fait qu'on part de la terre approfondit ce lien qui fait le peuple, qui est plus abstrait, qui est au-delà de la terre. Donc est-ce que c'est ça ? Bien sûr, il faudra ajouter, j'imagine, parce qu'on en avait parlé lors des derniers séminaires, enfin, un séminaire, on avait parlé de ça. Il y a la conscience d'être un peuple qui est abstrait, mais qui a un sentiment d'appartenance, mais dans le peuple juif, il y a l'amour du peuple. Donc ça, est-ce que l'amour du peuple juif se construit mieux en exil ? C'est-à-dire pas dans la promixité les uns des autres, mais qu'il faut qu'il y ait un élément d'hétérogénéité. Il faut qu'on devienne des étrangers les uns pour les autres pour s'aimer. Je ne sais pas. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant, enfin, en tout cas, le passage de l'organisation tribale à ce qui doit faire un peuple.
Sérieusement sur qu'est-ce qui fait un peuple, quoi, entend de... parce qu'on parle toujours du peuple juif, mais on en parle en tant que peuple juif que depuis l'exil. Avant, il y avait des tribus. Et d'ailleurs, le peuple juif, il porte le nom d'une des tribus. Yehuda, c'est les deux tribus qui étaient restées, enfin deux et demi, mais Yehuda et Binyamin, mais... Ce sont les deux tribus qui sont restées après l'exil des 10 tribus. Et comme la grande tribu là-dedans, c'était Yehuda, Yehuda, ça donne Yehudi, c'est en fait judéen, quoi. On porte le nom d'une des tribus en réalité. Parce qu'elle était majoritaire. Mais enfin bon, c'est quand même quelque chose de dire qu'on a perdu d'une certaine manière, on n'est pas appelé peuple d'Israël, enfin... Quand on parle, on dit le peuple d'Israël, le peuple juif. Le peuple juif, c'est le peuple yéhoudi. Quand on dit peuple juif, ça vient de yéhoudi, probablement. Et donc, c'est le peuple qui porte le nom d'une des tribus.
Une question. Le peuple juif s'est formé dans l'exil, effectivement. Mais néanmoins, il s'est formé avant. L'exil, il s'est formé en Égypte, parce que... Et je me suis toujours posé la question de savoir...
Alors, l'Égypte, c'est en exil. On était en exil avant d'être un peuple.
On était en exil avant d'être un peuple. Oui, oui, on était en exil avant d'être un peuple. D'accord. Mais par exemple, Moïse, qui était égyptien, à quel moment a-t-il basculé et à quel moment a-t-il senti qu'il faisait partie d'un peuple, qui était les Hébreux ?
Votre lecture, la Torah, elle ne présente pas Moïse comme ça.
Bah, c'est, non,
aussi,
c'est
une... On donne son papa, sa maman, oui. Et il appartient à la tribu de Lévi. Oui.
Mais on ne nous dit jamais comment le passage s'est fait. On nous dit ça, effectivement.
C'est non, mais on sait, on nous dit vraiment comment, à l'envers, il a été éduqué comme un prince héritier, oui. Et puis un beau jour, il a fait quelque chose, il est devenu persona non grata, etc. Et on dit qu'il s'est enfui à Couche ou ailleurs. Il a dû fuir. À 20 ans, il a dû fuir. Et c'est pour ça qu'après, il a un trou dans son CV, mon cher.
C'est ça, c'est sur ce trou-là que je pose la question, effectivement.
Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais nous avons pendant plusieurs mois exploré l'idée de la protection. Et que l'essence de l'exil consiste à chercher une protection. Et la synthèse qu'on a faite à Vishag traduit ce besoin d'enrichir cette idée. Bon, vous avez parlé de négociation, mais ce que vous dites, qui est, qu'on a un petit peu entendu de temps en temps, mais là vous le dites de manière brute, c'est qu'il n'y a pas de place pour les Juifs dans le monde. Et ça, c'est vraiment insupportable comme idée, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de place. Mais le dire de cette manière, et le dire d'autant plus que nous sommes peut-être le seul peuple à avoir un livre de référence qui nous dit que Dieu, lui, nous a promis une place à nous, il n'a promis de place à personne. Il n'y a qu'à Abraham à qui il a dit « Vous avez une place ». Et là, finalement, vous dites au bout de je ne sais pas combien de milliers d'années, « Mais non, il n'y a pas de place ».
Non, je dis que la promesse d'Hachem est toujours valable, mais concrètement, la place que Hachem nous a promis, pour l'instant, elle est occupée par quelqu'un. Elle a été occupée par quelqu'un, il a fallu chasser ce quelqu'un, et les commentaires disent que pour pouvoir le chasser, il a fallu d'abord qu'il se disqualifie vraiment, d'accord ? Parce que nous, on n'avait pas suffisamment de mérite pour pouvoir chasser quelqu'un qui ne s'était pas disqualifié, et donc, comme on dit, il fallait que la mesure soit pleine, pour qu'on puisse les chasser et prendre leur place. Et le texte, il n'arrête pas de dire, surtout, vous n'imaginez pas que c'est par votre mérite que vous allez entrer en Israël. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est seulement parce que je l'ai promis à Abraham. Si je ne l'avais pas promis, vous ne seriez pas sorti d'Égypte même. Ce n'est pas parce que vous avez souffert en Égypte que vous méritez de sortir. C'est noir sur blanc.
C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'il y avait le seul peuple qui était vraiment légitime, c'était le peuple oui, hébreu.
On est légitime, bien sûr. Hachem a dit que la terre nous appartenait. Mais Abraham lui-même, il a dit, bon, ça m'appartient maintenant. Ce que je demande simplement, c'est de pouvoir faire ce que j'ai à faire. Pour le reste, que vous mettiez vos drapeaux et que vous disiez que c'est chez vous, ça ne me dérange pas. D'accord ? Il dit, « Guerre vetoshav anochi imachem ». Ça ne me dérange pas. Je veux bien jouer à l'étranger. Je veux même payer pour des choses qui m'appartiennent. Je vais payer 412 pour enterrer ma femme dans un territoire qui m'appartient. Ça m'est égal, je veux bien ça. L'essentiel, c'est que laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Si je peux faire ce que j'ai à faire sur cette terre, que ce soit vous que vous disiez que c'est votre pays, ça me dérange pas.
Parce que je suis un peu gênée. Est-ce que je vais arriver à l'exprimer ? J'en sais rien. J'ai l'impression que c'est un rapport abstrait à la terre, alors qu'au contraire, toute la Torah, c'est un rapport très concret à la terre, très physique, très matériel.
Oui, c'est un rapport à la terre pour bien montrer qu'on n'est pas propriétaire de la terre.
Oui, mais justement, on peut avoir un rapport matériel sans être propriétaire, sans se sentir...
Ça, c'est visiblement, pas courant.
Non, mais c'est tout l'apprentissage sur la terre, justement. Et tant qu'on n'a pas fait cette preuve, et cette preuve, on ne peut la faire qu'en étant sur la terre, tant qu'on n'a pas fait la preuve de cette autre modalité de faire la guerre, d'être sur la terre, de faire l'agriculture, etc., eh bien, évidemment...
ça n'a pas suffi. On l'a faite, cette expérience. Ça n'a pas marché.
Moi, je ne sais pas si on l'a faite.
Le texte dit qu'on a fait l'expérience et qu'on s'est fait virer. ne serait pas là si on n'avait pas été viré.
Oui, mais on s'est peut-être fait virer pour plusieurs... pas seulement parce qu'on n'a pas été à la hauteur de la Terre, si je puis dire, mais aussi parce que peut-être il y a la fonction de lumière aussi, et il y a peut-être un rapport à se disperser dans...
Bon, je ne sais pas, vous pouvez dire des peut-être, etc. Excuse, mais... Pourquoi pas?
Bon, je veux dire, il y a une fonction aussi dans le rapport à l'autre quand on est en exil.
Mais oui, mais le rapport à l'autre, le problème, c'était que, justement, pour construire le peuple, en fait, il a fallu fabriquer un rapport à l'autre. On est sorti d'Égypte après que Hachem ait... Vous connaissez l'histoire. On a reçu l'ordre d'emprunter les kélim, les ustensiles. Et dans le texte, c'est marqué qu'il faudra emprunter à son prochain, à sa prochaine. Le Gaon de Vilna explique que jamais dans la Torah, le prochain, c'est un non-juif. Donc ce texte-là ne dit pas que vous avez emprunté aux Égyptiens. Mais avec qui on va emprunter alors? Il faut emprunter les uns aux autres. Parce que comme ils étaient des esclaves, ils étaient complètement, et qu'ils étaient à bout de souffle, ils cherchaient leur souffle, il n'y avait pas de relation. Donc Hachem a obligé les Israéliens à avoir des relations. Tu vas emprunter à ton voisin, etc. Après, les Égyptiens, quand ils ont vu que ça arrangeait la situation, ils se sont joints à eux aussi. Mais on n'est pas allé demander aux Égyptiens. Le gars me dit que ce n'est pas possible. Et donc, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit, pour avoir un embryon de peuple, il s'agit de fabriquer des relations entre les gens. Sinon, avec aucune relation, les individus ne sortent pas d'Égypte. Et donc, c'est ça. Il a fallu fabriquer des relations. C'est la condition pour qu'Hachem nous fasse sortir d'Égypte. Et quand ces relations étaient un tout petit peu construites, en fait, c'est ça qui a permis de continuer un peu après.
Et c'est ça qui a fait que les Égyptiens, certains, se sont agglutinés au peuple. C'est ce
oui, parce qu'ils ont vu que c'était sympa. Bon, puis à part ça, il y a toujours les gens qui viennent au secours de la victoire. Je veux dire...
Merci. Juste une petite réflexion pour rebondir sur pour revenir sur Amalek. Alors la notion classique d'Amalek, de notre ennemi extérieur, et sur ce que disait David par rapport à la dualité Rabbi Antonin qui était inscrite dans le ventre de Rivka. Est-ce qu'on peut pas y voir là justement deux modèles de nations contre lesquelles nous avons été et nous sommes confrontés depuis la nuit des temps, à savoir des nations avec lesquelles on doit discuter, on peut discuter, avec lesquelles un dialogue est possible, un dialogue fécond est possible. Donc Rabbi Antonin, c'en est l'exemple type. Et puis à l'inverse, on l'a lu hier, Amalek, avec lequel c'est ou eux ou nous, c'est une question de vie ou de mort. Ils sont Réchid Goïm comme nous, et donc il n'y a pas de place pour Amalek et pour nous. Est-ce que ça ne définit pas justement deux types de... Enfin, une catégorie de nations au sein desquelles nous serons exilés et avec lesquelles on pourra discuter, comme vous avez dit tout à l'heure, avec des compromis, non pas des compromissions, mais des compromis. Et puis une autre catégorie de nations, on ne sait toujours pas qui est Amalek, mais au fil des temps, ça change, avec lesquelles, là, pour le coup, aucun dialogue n'est possible.
Oui, c'est sûr qu'avec Amalek, on n'a pas de dialogue possible. Parce qu'en fait, c'est même... Le texte dit, c'est même une opposition. Amalek, il n'est pas seulement notre ennemi, il est l'ennemi d'Hachem. Hachem dit, j'ai une guerre permanente avec Amalek. Donc, vous avez raison, avec lui, on ne peut pas discuter. Mais c'est le même peuple. D'accord, Antonin, c'est Rome, et Amalek, c'est Édom, donc c'est Rome aussi à ce moment-là. Mais bon, Amalek, c'est à travers tous les temps.
Merci, Raph, pour ces explications extrêmement synthétiques, effectivement, du moment où on en est... arrivé, mais en vous écoutant, et surtout au début de votre exposé, je me suis aperçu que nos maîtres, au fond, ce qu'ils recommandent, et c'est ce qui se pratiquait sous le nom de Stade Lanout, qui se pratique encore, puisque même certains, je crois, Natura et Carta disent que l'amitié qu'ils éprouvent pour l'Iran, c'est de la Stade Lanout, en fait, au cas où... Donc effectivement, ça définit concrètement, comme vous l'avez dit, la politique juive en exil. Mais finalement, je me souviens de la réaction de Danny Trom quand j'avais dit cela. Bon, on ne l'avait peut-être pas assez approfondi, mais il m'a dit, mais c'est un contenu très pauvre, finalement. C'est presque de l'anti-politique. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas... À partir de certaines choses que vous avez évoquées, notamment du rapport au territoire, de la question du partage de la terre, d'autres modèles possibles, qui seraient en quelque sorte alternatifs à la fois à l'achat de la Nout et peut-être à la conversion à l'état-nation moderne qu'est le sionisme.
Peut-être que la relation entre États, elle n'existe que si on a deux États. Si nous, on n'est pas un État au même titre que les États où nous sommes en galoute, c'est normal qu'il n'y ait pas de politique. Il n'y a pas de politique en son extérieur. Il n'y a pas de relation du peuple juif avec en tant que peuple avec les peuples dans lesquels on est exilé. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, on n'est pas un peuple comme les autres. Et donc, effectivement, peut-être c'est... Il peut dire que c'est pauvre, c'est vrai. Mais, si vous voulez, très souvent, quand il y avait l'idolâtrie qui était confrontée à la Torah, alors on disait, pourquoi ça? La Torah, ça c'est Hachem. Alors que l'idolâtre dit, ça, c'est le dieu, ça c'est Mercure, et ça c'est celui-là, et ça c'est celui-là, etc. Donc là, on faisait des explications. Ça, c'est des explications. Tandis que votre explication à vous, ça, c'est HM, ça, c'est HM, ça, c'est HM, c'est pas une explication, c'est pauvre. Mais c'est vrai. Peut-être qu'effectivement, cette pauvreté-là, elle est l'expression de la situation particulière du peuple juif. Peut-être que je
prends. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant pour la poursuite du séminaire dans votre exposé, c'est qu'effectivement, il y a quand même aussi une politique intérieure.
Oui, c'est ça qu'on n'a pas de
parler. Voilà, une politique.
Je dis qu'en vérité, s'il y a politique, c'est vraiment comment on s'est organisé, justement, alors qu'on n'a pas de territoire, etc., que ce n'est pas chez nous, qu'on ne peut pas, que pendant longtemps, et dans certains endroits, on ne pouvait pas acheter des territoires, on ne pouvait pas acheter de terre, il fallait avoir des occupations qui étaient hors terre, quoi, quelque part. Bon, on s'est arrangé. Ça, c'est la politique intérieure, on s'est arrangé. Comment on s'est débrouillé?
Historiquement, on a développé des formes, le Kahal, par exemple,
oui.
qui ont même servi.
Des choses comme ça, on a inventé des formules.
Qui ont même pu servir de modèle, puisque bon, j'imagine qu'on en reparlera au cours du séminaire, mais il y a un livre qui va paraître sur la République des Hébreux, c'est-à-dire comment l'organisation, expression qu'on trouve chez Spinoza, mais comment au XVIIe siècle, l'organisation politique juive, ou en tout cas dans la Torah, a servi de modèle du politique, ou de modèle contre modèle. Voilà, oui, oui.
Pour reprendre une question que vous avez abordée au début de la séance sur la place des Shvatim à l'intérieur de l'organisation, vous avez souligné comment c'était étonnant que la Torah détaille à ce point la manière d'organiser les Shvatim autour du Mishkan, et cette chose-là, on ne la retrouve pas par la suite. Ce qu'on retrouve par la suite, c'est dans le Sefer Shoftim, des Shvatim qui qui ont duré quand même une grande partie de l'histoire sur la terre d'Israël. Donc la question que je me posais, c'était est-ce que cette structure des tribus, des branches, elle est appelée à revenir? Ou bien est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de vivre, peut-être sans savoir le dire, de nos jours, où on est en Israël, mais plus sous une gouvernance, on va dire, qui soit digne du Meller, comme on l'attendrait, mais où chaque groupe en Israël essaye de composer avec la Torah qu'il développe sur place aussi une certaine forme de manière d'habiter Israël qui est nouvelle, qui est une exploration nouvelle par rapport à notre histoire passée où on n'a pas vu véritablement encore peut-être cette place que les Shvatim ils ont à l'intérieur de la structure. Donc, en résumé, je ne sais pas si j'ai été très clair, est-ce que la structure du peuple en divers Shvatim, est-ce qu'elle est appelée à un avenir encore ou bien c'est quelque chose qui est révolu?
C'est clair que la notion de Shvatim a bien continué, tu as raison. Mais d'abord, ce n'était pas organisé de la même manière. Les alliances entre les différentes, les groupes de trois qui avaient, les quatre fois trois qui avaient, ils sont construits. La Barbanel, il dit que c'était parce qu'il fallait avoir des soldats sur ce front-là, et sur ce front-là, il fallait avoir. Il regarde les additions des populations, etc. D'autres aussi font le même. D'accord, mais du coup, ça, c'est tombé complètement. Ça n'a plus de sens. Ça ne s'est pas réalisé. Alors maintenant, est-ce qu'un jour, on reviendra à une structure comme celle-là ou bien non? Est-ce que les différentes communautés ou différents groupes, etc., est-ce qu'on peut assimiler ça à des Shvatim? J'en sais rien. Maintenant, si tu veux... Les Shvatim, c'est quand même quelque chose de bien précis. Et je ne sais pas si on peut dire que ce groupe-là, c'est comme un Shevet. Est-ce que ça... Il faudrait faire une analyse. Qu'est-ce qu'est la spécificité d'une tribu pour regarder si on peut retrouver ça dans les groupes en question dont tu parles. D'accord, ça serait peut-être intéressant, d'ailleurs. Mais comme ça, au débeauté, je ne vois pas très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher. Peut-être raison, ça vaut la peine. La vérité, c'est que cette structure-là, je n'ai jamais vu d'autre explication que de dire que c'est une structure qui correspond à une structure spirituelle. Les kabbalistes, eux, ils te disent que cette structure du clan d'Israël en 4x3, etc., ça correspond exactement à ce qui se passe dans le ciel, quoi. Avec des anges, etc. Ça, c'est ce que disent les kabbalistes. Donc eux, ils disent, oui, c'est là, c'est la structure de l'Israël d'en haut. Mais bon, moi je regardais un peu ce que ça donne concrètement. Je ne sais pas. C'est, dire que peut-être, oui, ça ne me dérange pas. Hein, je n'ai pas de position là-dessus. Ça me paraît peu vraisemblable, mais... De manière, comme je te dis, je ne veux pas te le dire.
Finalement définissent des tribus, c'est ça que vous vouliez dire? Des pré-tribus ou des tribus en progrès?
Se regrouper. inquiétude face au Covid, selon les groupes.
Non, pas du tout, il faut prendre des vraies mesures. Donc c'est vraiment deux philosophies de l'organisation. Qu'est-ce qui est vraiment fondamental? On pourrait dire que c'est comme une tribu qui pense que l'important c'est le social, que sans social c'est impossible. Et l'autre, ils disent non, il faut préserver la santé des gens, et puis le social il passera après. Par exemple, puisqu'on vient de vivre ça il n'y a pas si longtemps.
David, hein? Y a-t-il une autre question? David, Riel, là.
Merci. Par rapport à ce dont vous avez parlé sur, d'une part, la séparation des pouvoirs, et également ensuite par rapport à la suite de l'histoire juive dans le Tanakh par rapport au roi, est-ce qu'il n'y a pas justement un paradoxe qu'on recherche l'unité du Ham Israël, mais d'un autre côté que cette unité peut être dangereuse, parce que c'est quand quelqu'un, au niveau politique, quand quelqu'un confond tous les pouvoirs, c'est jamais évident. Et par ailleurs, le roi, étant donné qu'il est le cœur du peuple, en fait, Lev HaMelech, et donc justement qu'il attire tout le monde vers lui, il peut faire des choses extraordinaires ou pas extraordinaires. Donc il y aurait une sorte de peur de l'unité, de paradoxe.
Le roi, il est limité. Hein. Il ne peut pas aller faire la guerre n'importe comment. Il doit demander la permission au Sanhédrin, etc. Donc même le roi, il a aussi un statut.
Oui. C'est vrai que quand on voit l'histoire du Tanakh, tout dépend en fait du roi. Si on peut avoir un roi bon qui va changer le Ham Israël et le contraire, donc c'est.
Bien sûr qu'un roi peut faire le malheur de son peuple, le roi Corban, s'il avait accepté de lui réduire les impôts.
Oui, commencez à manger. J'ai une question, vraiment, j'ai honte de la poser ici, elle est très bête, mais on a été créé en dehors d'Israël, qu'est-ce que c'est, pourquoi maintenant? Parce qu'intrinsèquement, dans la création, dans la Genèse, on n'est pas tout simplement en exil, et puis c'est comme ça que doit être la situation. En fait, d'où ça vient cette histoire d'Israël? Peut-être. On est des chasseurs.
Des?
On doit conquérir, on doit chasser d'autres...
Oui, effectivement. On aurait pu penser que si on n'y avait pas eu l'histoire des explorateurs, de toute façon, on n'avait pas fait 40 ans dans le désert, on serait peut-être entré différemment en Israël. Peut-être on n'aurait pas eu besoin de faire la guerre. Parce que ça nous a fait beaucoup de mal de devoir faire la guerre. Mais pendant que ces 40 ans, l'idolâtrie s'est complètement développée en Canaan. Et nous, on a dégringolé au point de vue niveau. Donc on a été obligé de faire la guerre. Et faire la guerre, ça nous fait encore du mal aujourd'hui, quoi, d'avoir dû faire la guerre pour conquérir. On aurait pu peut-être arriver... La Torah est assez forte pour contrer la Avodah Zarah. Pourquoi est-ce que c'était cette panique là? Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas confiance en la Torah? Non, il n'y avait pas. Il n'était pas au niveau probablement. Et je ne sais pas. Peut-être effectivement, c'est des tas de choses. C'est le comportement de certains ou peut-être des majorités. Les autres qui n'ont pas été assez forts.
Il aurait pu créer Hachem, le peuple juif ou hébreu, même si cette notion n'existait pas encore, déjà en Israël dès la création.
Que
il aurait pu créer ce peuple-là en Israël dès la création.
Non, mais justement, c'est ça. Il faut expliquer pourquoi. je pourrais expliquer maintenant pourquoi on passe d'abord par un exil. On est d'abord en Égypte, qui est l'Égypte, c'est la mère des exils, mais c'est même pas compté dans les quatre exils. C'est autre chose. Et plus, le peuple juif, il est né deux fois. Il est né une fois avec Avraham Avinu, une deuxième fois avec Moshe Rabbeinu. C'est beaucoup de choses se font en deux coups, en deux temps.
Okay. Merci beaucoup. Alors, je vais profiter qu'il nous reste un petit peu de temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Justement, maintenant qu'on a vu un petit peu les perspectives pour la suite du séminaire, je serais très intéressé, si vous êtes d'accord, de nous dire, selon vous, quelle serait, à partir de cette séance, on va faire notre travail avec le comité scientifique. On a déjà quelques pistes, notamment au niveau des prochains intervenants. Certainement, ce sera David Sedbon, puis ensuite Assidou Van Buzelkis, puis Dan Arbib. Mais je voulais voir avec vous, voilà, au vu des pistes qu'a ouvert le RAV, comment vous verriez, qu'est-ce que vous pourriez... Quels conseils vous nous donneriez pour améliorer le séminaire et voilà, tout simplement.